Donc, Daniel chapitre 4, je vais, comme la dernière fois, nous allons faire la lecture tout au long de ce message, parce que le chapitre est quand même assez long. Hein, et j'ai intitulé ce message « Le trio domine sur le règne de l'homme », mais ça aurait pu être aussi « L'humilité précède la gloire » ou « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu ». Nous avons vu la semaine dernière... Pas la semaine dernière, il y a deux semaines, comment est-ce que Dieu a délivré de façon extraordinaire Shadrach, Meshach et Abednego de la fournaise ardente, comment est-ce que Nebuchadnezzar a confessé à nouveau le nom de Dieu sans bien sûr qu'il y ait de véritable repentance. Enfin, nous allons voir maintenant les versets 1 à 3 comme introduction. Nebuchadnezzar proclame publiquement ce que Dieu a opéré à son égard. Les versets 1 à 3, Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard, que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Donc le chapitre 4 du livre de Daniel débute par une proclamation universelle. On pourrait dire catholique, parce que c'est ce que le terme veut dire, universel. Nous croyons à l'Église catholique, non romaine, mais catholique. Il y a une Église universelle, n'est-ce pas? Donc, c'est une proclamation universelle que fait publier Nebuchadnezzar. Ce n'est pas anodin. Ce roi imbu de lui-même, tout-puissant, n'est-ce pas, qui fait une telle déclaration à l'ensemble de ses sujets, hein, qui veut que tout cela soit connu aux confins de son empire. Et justement, dans cette proclamation, Nebuchadnezzar loue le Dieu suprême, c'est-à-dire le Dieu des Juifs, et lui rend grâce pour les signes ainsi que les prodiges que celui-ci a accomplis à son égard. James Montgomery Boyce considérait que la clé d'interprétation du texte que nous avons sous les yeux, ainsi que de tout ce qui précède dans les livres de Daniel, se trouve au tout début, justement, de ce livre-là. Là où nous est rapporté donc la conquête de Jérusalem par Nebuchadnezzar, au chapitre 1, verset 2, nous lisons « Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. » C'est intéressant, hein? Dans le même texte, ça nous dit « Dieu a livré entre ses mains. » Mais Nebuchadnezzar nous était dit aussi à emporter une partie des ustensiles de la maison de Dieu pour dans son pays, donc Shinéar, c'est le pays de Babylone, et il les a mis dans la maison de son Dieu. Pourquoi? Le but de cela, c'était de signifier la supériorité de ce Dieu-là sur le Dieu d'Israël. Si j'ai vaincu Israël, si j'ai vaincu les Juifs, si j'ai vaincu Joachim, c'est nécessairement que mon Dieu est plus puissant que le leur. Et nous avons vu que, à partir du chapitre 2, et enfin au chapitre 2 et au chapitre 3, que ce Dieu des Juifs a obligé Nebuchadnezzar à le reconnaître. Non pas qu'il y ait une repentance en tant que telle, mais il est obligé quand même de plier les genoux devant lui, de reconnaître officiellement que ce Dieu est le Dieu suprême. Donc à s'incliner et devant ce Dieu, à lui donner gloire. Néanmoins, comme je disais, bien que forcé de ployer les genoux devant l'Éternel, Nebuchadnezzar n'offre cependant pas son cœur à celui-ci. Certes, la crainte que Dieu lui a inspirée l'a amené à élever aux plus hautes fonctions du royaume des adorateurs de celui-ci, Daniel ainsi que ses amis, et à assurer la préservation de la nation sur laquelle le nom de Dieu, de l'Éternel, est invoqué. Il n'en demeure pas moins que notre roi n'a pas complètement abdiqué devant ce Dieu. Il lui demeure rebelle au plus profond de son âme, c'est ce qu'on voit, n'est-ce pas? Et il s'approprie notamment la gloire qui revient à ce dernier. Mais alors qu'il arrive à la fin de son règne, parce que le chapitre 4 se situe à la fin du règne de Nebuchadnezzar, qui a duré longtemps, là, je ne me souviens pas si c'est 42, 43 ans, à la fin de son règne, il va devoir pour une troisième fois courber l'échine devant le Dieu suprême et reconnaître devant tous sa parfaite seigneurie sur tous les habitants du monde. En fait, non seulement il le reconnaît pour les habitants du monde, mais aussi ceux qui peuplent le ciel. Ésaïe chapitre 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Deuxième point, enfin c'est le premier point, le nouveau songe que Dieu a donné à Nebuchadnezzar. Au chapitre 2, on a vu que le roi a reçu un songe. En fait, il a demandé donc à ses sages de lui donner le contenu du songe parce qu'il voulait s'assurer que ceux-ci ne lui raconteraient pas des babards. Mais en fin de compte, c'est Daniel qui a pu le lui donner. Et il a été tellement estomaqué justement qu'il s'est prosterné devant Daniel en signe de révérence pour le Dieu de Daniel. Maintenant, vers la fin de son règne et donc de sa vie aussi, il reçoit un nouveau songe. Vous savez, les songes, ce n'est pas quelque chose qu'on voit couramment dans les Écritures. D'ailleurs, je pense que c'est relié à la culture et à la religion babylonienne. Dieu s'en sert pour parler aux païens, n'est-ce pas, qui peuvent s'imaginer avoir pris le contrôle du monde et le contrôle du peuple de Dieu, en fait, que Dieu, le fait qu'ils ne font qu'accomplir parfaitement le décret éternel du Seigneur. Donc, les versets 4 à 18. Moi, alors Nebuchadnezzar qui fait son édit, raconte maintenant la raison pourquoi il rend gloire au Dieu suprême. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils n'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui en lui l'esprit des dieux saints, ce qui démontre sa conception encore païenne de la divinité. Je lui dis le songe, Belshazzar, chef des magiciens, qui en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants, il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. « Abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez le feuillage, dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage, son cœur d'homme lui sera ôté, un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. » Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar, et toi, Belshazzar, donne-moi l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Intéressant que le saint qui est descendu nous dit qu'en fait, ce que Dieu est en train de faire, c'est ça s'adresse à tous les hommes. Et que Dieu donc domine sur l'ensemble de l'humanité. Donc, moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Le mot tranquille peut être traduit par sécurité, repos et même prospérité. Il est utilisé par David au psaume 30 lorsqu'il a écrit « Je disais dans ma tranquillité, je ne chancellerai jamais ». Donc, tout allait bien pour Nebuchadnezzar. Soit dit en passant, cette description, n'est-ce pas, de Nebuchadnezzar, de son royaume, nous le présente sous un bel angle. C'est la manière dont le roi voit les choses. Ce n'est pas nécessairement la manière dont Dieu voit les choses. Car ce qu'il nous est dit plus tard, c'est qu'à travers tout cela, il y a énormément d'injustice, de violence et de cruauté. Mais effectivement, le royaume en lui-même était d'une grande beauté. Nebuchadnezzar avait atteint une notoriété extraordinaire. Sa gloire était merveilleuse. Alors il dit, « J'étais tranquille dans ma maison, heureux dans mon palais, l'assurance du pécheur. Tout va bien. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur mon lit et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. » Alors ce songe est pour le roi comme un puissant coup de tonnerre dans un ciel d'azur. Tout va bien, vous êtes assis, bronzé au soleil, un méchant coup de tonnerre qui vous avertit de quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et tout ça vient profondément troubler sa quiétude, son assurance, et il ne peut se sortir ce songe de sa tête. Il sait que ça le concerne, il a le pressentiment de quelque chose de grave, il y a une menace qui pèse sur sa tête, une épée de Damoclès. Alors, hanté par cette vision, Nebuchadnezzar convoque alors tous les sages de son royaume dans l'espoir qu'ils puissent lui donner l'explication de celui-ci peine perdue. Nul d'entre eux ne peut ou n'ose répondre à sa requête, soit parce qu'ils en sont incapables, d'en saisir le sens, ou bien par crainte de la réaction du souverain, car eux-mêmes devaient se dire qu'il y a quelque chose de très, très négatif dans ce songe-là. Donc, ils avaient peut-être même peur d'oser donner ce qui semblait être l'explication logique, du moins une partie. Je pense pas qu'ils pouvaient le comprendre dans son totalité, mais au moins une certaine partie. Et je pense qu'ils avaient peur de la réaction du roi. Je rappelle qu'il était légèrement despotique et colérique. En dernier recours, le souverain fait appeler donc Daniel, qui est en lui l'esprit des dieux saints, expression encore une fois qui dénote une conception païenne de la divinité. Et pour qui, dit-il, aucun secret n'est difficile. Le fait que Nebuchadnezzar ait attendu avant de consulter Daniel manifeste probablement son désir de ne pas avoir affaire directement avec le Dieu qu'il a déjà confessé de sa bouche. Il espérait avoir une réponse de la part de ses sages. Et peut-être qu'il espérait une réponse favorable. La conception de Dieu en dehors de la véritable repentance de la vie avec Dieu, c'est un Dieu qu'on peut et qu'on veut manipuler constamment. Lorsqu'on n'est pas en Christ, on vit dans une réalité virtuelle. On prend nos pensées, nos désirs pour la réalité. Alors, c'est la raison probablement pour laquelle Nebuchadnezzar, qui connaissait très bien Daniel, n'est-ce pas, n'a pas voulu aller vers lui dans un premier temps, mais la main providentielle de Dieu était à l'œuvre, et c'est comme un étau, n'est-ce pas, c'est comme qui l'a conduit, il était dans l'obligation, un entonnoir, il était dans l'obligation, donc, de s'adresser à Daniel, afin qu'il puisse lui donner, donc, l'interprétation de ce rêve qui ne cessait de le hanter. Deuxième point, l'explication du songe, les versets 19 à 27. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue, s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain. Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Lors de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera. Quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et que ton bonheur pourra se prolonger. Donc Daniel est lui-même profondément troublé par ce qu'il vient d'entendre. Peut-être aussi, à l'instar donc des sages, par appréhension de comment pourrait réagir le roi à l'écoute de l'interprétation. Néanmoins, en fidèle serviteur de Dieu et de son souverain, intéressant, Daniel, fidèle serviteur du Dieu de l'Alliance, qui cherche à mettre en pratique les commandements de Dieu est aussi un fidèle serviteur de son souverain, qui est un païen et un homme qui vit dans une grande iniquité. Alors, en témoin fidèle du fidèle serviteur de Dieu plutôt et de son et de Nebuchadnezzar, Daniel va s'exécuter. Ça prenait du courage. Ce que Nebuchadnezzar a vu premièrement, c'est un arbre robuste d'une très grande hauteur, dont la cime atteignait le ciel et que l'on pouvait apercevoir de partout sur terre, tellement il était grand, de très 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 loin. Alors, ça parle de gloire, bien sûr, ça parle de grandeur, ça parle de prestige, ça parle aussi de force, de puissance. Un arbre verdoyant, aux fruits abondants, qui servait de refuge et fournissait donc de la nourriture tant aux oiseaux du ciel qu'aux bêtes de la terre. Cet arbre, explique Daniel, dont le feuillage était beau, les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sur lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue, s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Et Daniel de poursuivre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent, qui sont saints, c'est-à-dire un ange, descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre, détruisez-le, laissez en terre le tronc, se trouvent les racines, liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé dans la rosée du ciel, que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. » Intéressant de voir, il y a tellement de textes, n'est-ce pas, où on aimerait avoir plus de détails dans les Écritures. On a l'impression que c'est tellement abrégé. On en a d'autres comme cela, ça s'étend, hein? Il y a une raison. Le texte est inspiré. Et Daniel doit dire, voici l'explication, roi. C'est le décret du Très-Haut. C'est arrêté. Quoi que tu en penses, quoi que tu en dises, voici ce que mon Dieu a décidé. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec des bêtes des champs. Toi, le grand arbre que l'on voit de loin, si puissant, hein, sous lequel les hommes et les femmes de partout viennent s'abriter, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf, au bœuf de l'herbe à manger, tu seras trempé de la rosée du ciel, 7 ans passeront sur toi, ce n'est pas seulement 7 années, ça peut être 7 mois, on ne sait pas, mais ça nous parle d'un temps parfait, déterminé parfaitement par Dieu, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît. Lors de laisser le tronc, se trouvent les racines de l'arbre, signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés. Alors d'un côté, on a cette description magnifique de Nebuchadnezzar, et d'un autre, on a aussi le verdict de Dieu. Hein? Je dirais la radiographie ou le taco divin, à savoir que tout cela est souillé par le péché. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux et ton bonheur pourra se prolonger. Car cet empire, comme tous les empires du monde, quels qu'ils soient, sont bâtis sur le sang, sur le vol, sur la rapine. Tous les empires, sans exception, quoi qu'on en dise. Et quoi qu'en pense Nebuchadnezzar, sa puissance ainsi que sa gloire lui viennent de Dieu. C'est de cela dont il est question ici. C'est Dieu qui lui a accordé la domination sur un grand nombre de peuples et qui a affermi son trône. Le roi de Babylone possède de ce fait la responsabilité de traiter ses sujets avec droiture et bonté. Aussi Dieu l'avertit-il de façon solennelle de se repentir de ses péchés, de s'humilier devant sa face. S'il ne le fait pas, le souverain, tel l'arbre abattu et détruit, se verra chassé du pouvoir et à l'image du tronc laissé en terre avec ses racines. Le tronc n'a pas été déraciné, ce n'était pas le plan de Dieu. L'idée, c'était de l'humilier pour qu'il le reconnaisse. Et donc, à l'image du tronc, laissé en terre avec ses racines, mais lié avec des chaînes de fer et d'airain, il sera réduit malgré lui à vivre bassement comme les animaux des champs pendant une période de 7 ans, jusqu'à ce qu'il reconnaisse la suprématie de Dieu sur sa vie. À ce moment-là, il sera restauré dans sa splendeur. Troisième point, l'accomplissement du songe et ses résultats, versets 28 à 37. Ce matin, je ne pourrai pas, bien sûr, toucher à tous les aspects de ce texte, d'ailleurs, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. On va essayer de s'arrêter juste à quelques points. Alors, versets 28 à 37. « Toutes ces choses se sont accomplies pour le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, un an plus tard, donc, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi, « Qu'une voix descendit du ciel, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au but de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Il devait ressembler à une espèce d'hippie bizarre. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. Intéressant, il vient de se glorifier, mais il dit, tous les habitants de la terre, y compris Nebuchadnezzar, ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. Et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Toutes ces choses se sont accomplies pour le roi Nebuchadnezzar. Alors, un an plus tard, alors qu'il était en train de contempler la cité de Babylone, hein, et il a dit que c'était lui, en fait, qui avait construit tout cela, que tout cela était l'œuvre de ses mains. En fait, on est en pleine mégalomanie. Il s'enfle d'orgueil d'une façon extraordinaire. Il s'auto-déifie, hein, et il s'exalte au plus haut point. Et il considère donc que tout ce qu'il voit autour de lui est son œuvre propre, que c'est le résultat de sa volonté, de son intelligence et de sa force. Ce qui signifie aussi que tous, sans exception, doivent se prosterner devant lui. Rappelons-nous sa statue. Alors que Daniel avait dit au chapitre précédent, c'est Dieu qui abaisse et qui élève les rois, littéralement qui les érige. Au chapitre 3, il nous est dit à plusieurs reprises, la statue que Nebuchadnezzar avait fait ériger. Alors, d'un côté, Dieu, c'est lui qui abaisse et qui élève, qui le veut en autorité. De l'autre, Nebuchadnezzar qui dit, moi j'ai érigé mon Dieu. Et le but, c'était, soi-disant, de contrecarrer ce que Dieu lui avait révélé, à savoir qu'il était la tête d'or, mais que ça allait prendre fin, ce royaume-là, pour être remplacé par un autre. Lui, il a fait une statue d'or au complet. L'idée, c'était, mon royaume va rester à jamais. Ma gloire va subsister à jamais. J'ai fondé un royaume que personne, ni aucun dieu ne pourront détruire ni ou renverser. Ici, on voit à nouveau, bien sûr, tout cela rejaillit, revenir, hein, dans un élan d'orgueil extraordinaire. Est-ce que j'ai... Juste très rapidement, je sais que le temps passe vite, mais... Vous savez, la ville de Babylone, pendant longtemps, on considérait Nebuchadnezzar comme étant un guerrier extraordinaire, mais au niveau de ce qu'il avait pu accomplir, au niveau de Babylone, de l'architecture, on n'avait pas beaucoup de données là-dessus, mais ce qu'on a découvert nous a estomaqué. Mais donnez, par exemple, la ville de Babylone était protégée par un système de double muraille, l'enceinte interne ayant près de 20 km de longueur. Chaque mur faisait près de 8 mètres d'épaisseur, était séparé par 12 mètres de l'enceinte suivante. L'ensemble comprenait 360 tours, une tour tous les 50 mètres. Le long de la rue des processions, je pense que c'était la rue centrale de la ville de Babylone, totalement pavée, large de 21 mètres. Et conduisant au centre de la ville, les murs étaient décorés de briques sculptées sur plus d'un kilomètre, comportant 120 lions, 575 dragons et taureaux. André Parot explique que le visage de chaque animal se distinguait sur un fond teint en bleu avec de la poudre de lapis lazuli, je ne sais pas ce que c'est. L'ornementation et l'architecture étaient habilement adaptées l'une à l'autre, en dépit du grand nombre d'animaux qui étaient taillés à l'échelle, l'ensemble était harmonieusement ordonné. À l'extrémité nord de la rue des processions se trouvait la célèbre porte d'Itsar, avec ses 11 mètres de haut, ses 557 animaux aux couleurs vives, sur fond bleu azur. Cette porte fut emportée à Berlin, etc. La cité était dominée par un ziggurat. Une ziggurat, c'est une pyramide de 7 étages, haute de 88 mètres, connue sous le nom de Tour de Babylone. Près de 60 millions de briques ont été nécessaires à la construction de cette tour immense, au sommet de laquelle on pouvait trouver le temple de Marduk. Contenant une statue de Marduk en or massif pesant plus de 11 tonnes. Ça donne une idée, n'est-ce pas, de la splendeur de cette ville. Et certainement que Nebuchadnezzar a pu faire d'autres travaux ailleurs. Il s'est accaparé aussi des joyaux de d'autres nations, de d'autres royaumes, n'est-ce pas? Et il considérait que tout cela maintenant lui appartenait. On voit ça avec le roi de Pharaon aussi dans les Écritures, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit « Le Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait, etc. » On voit ça avec le roi d'Assyrie, n'est-ce pas? C'est le problème du despotisme lorsque les hommes... Et en fait, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Le fait de dire « Je suis Dieu, hein, je m'exalte. » C'est alors qu'une voix est descendue du ciel pour lui annoncer que ce qu'il avait vu en songe un an auparavant allait maintenant se réaliser. Et Nebuchadnezzar se voit effectivement frappé par une maladie mentale. Il perd la raison et n'est plus en état de gouverner son royaume. L'homme le plus puissant du monde est abaissé au niveau d'un animal, se comporte et vit comme un bœuf devant ceux qu'il a dominés depuis de nombreuses années. En fait, on appelle cette maladie-là, enfin, on l'appelait anciennement la lycanthropie. Et c'est une maladie, semble-t-il, qui a presque disparu pour plusieurs raisons, mais qu'on connaît à l'époque. Il y a des cas qui ont été recensés, des gens, donc surtout qui se prenaient pour des chiens, des loups, etc., mais en fait qui adoptaient le comportement d'un animal sans perdre totalement conscience d'eux-mêmes. Certains disent que c'est une forme de dépression. On ne sait pas la cause de cela. Il peut y avoir des causes secondaires, peut-être même la folie des grandeurs. La folie des grandeurs. On voit ça parfois avec des grandes vedettes, n'est-ce pas, qui perdent la carte. Quoi qu'il en soit, on sait que la cause première, c'est Dieu lui-même. C'est un châtiment qui vient sur Nebuchadnezzar. Mais, comme l'avait prédit aussi le rêve, Nebuchadnezzar, après 7 ans, on ne sait pas quelle est cette période exactement, mais après le temps parfait prédéterminé par Dieu, Nebuchadnezzar retrouve ses esprits et... profondément humilié, il lève les yeux vers le ciel et bénit le Très-Haut qui vit éternellement et qui règne sur toutes choses avec vérité et justice et à qui aucune créature ne peut résister et lui dire « Que fais-tu ?» Quel changement quand même de cœur. La question qui se pose bien sûr, c'est est-ce que Nebuchadnezzar s'est vraiment converti à Dieu? Beaucoup le pensent, certains autres comme Calvin ne le croient pas. Enfin, Calvin ne le croyait pas, n'est-ce pas? On peut dire qu'il ne croit pas parce que... Ben, je ne sais pas maintenant, parce qu'il est au ciel, il a peut-être un peu plus de réponses, mais il est vrai qu'on ne peut pas être affirmatif. Personnellement, je ne suis pas persuadé que cet homme s'est converti vraiment. Et je ne pense pas que ce soit le thème du chapitre 4 en tant que tel. Certainement qu'il y a un grand changement de mentalité, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui s'est passé. Il nous est dit au chapitre 7, dans une vision que Daniel va recevoir à l'époque de Belshazzar, successeur de Nebuchadnezzar, alors qu'il voit justement le royaume de Babylone symbolisé sous les traits d'un lion avec des ailes d'aigle. Ça nous parle encore de la noblesse. Ce sont les rois des animaux, hein, mais ça nous parle aussi de cruauté. Mais ça nous dit que donc le lion avec les ailes d'aigle, à un moment donné, je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Daniel chapitre 7, verset 4. Ça nous parle de quelque chose de plus humain. C'est certain que Nebuchadnezzar a été profondément humilié. Il semble qu'il ait terminé son règne avec un peu plus de justice envers ses sujets. Quelque chose qui l'a saisi, mais jusqu'où, je ne sais pas. Ça appartient à notre Dieu. Rappelons-nous que Akab, un roi extrêmement impie, hein, avec sa femme Jézabel, alors que justement Jézabel a fait tuer Nabon, qui était propriétaire d'une vigne que Akab voulait avoir. Akab boudait parce qu'il n'y a pas sa vigne. Et là, Jézabel lui a dit, est-ce que c'est toi qui es roi en Israël? Je vais m'occuper de cela. Alors, elle a fait accuser Nabon injustement de blasphème pour qu'on le lapide. Et Akab a pu donc s'accaparer de la vigne. Et là, le prophète Élie est venu et il n'a pas mâché ses mots de la part du Seigneur. C'était la condamnation, c'était la menace de... En fait, Dieu lui dit, c'est terminé, je vais te frapper. Et il nous est dit, c'est dans 1 Roi chapitre 21, qu'après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec son sac et il marchait lentement, en signe de deuil, de repentance, de pénitence. Et le Seigneur des Israélites, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le mal sur lui pendant sa vie. Et donc l'idée, c'est qu'il était toujours sous la condamnation. Mais Dieu s'est laissé quand même toucher par ce qu'a fait Akab. On sait qu'il ne s'est pas repenti. On le voit dans les chapitres qui suivent. Il va mourir frappé par Dieu lui-même, mais Dieu lui a quand même accordé une certaine grâce. C'est peut-être ce qu'on peut voir avec Nebuchadnezzar. Quoi qu'il en soit, permettez-moi de vous dire ce matin, ça n'a rien à voir ici avec souvent ce qu'on voit, l'appropriation que font même des politiciens, n'est-ce pas, de la foi chrétienne, qui essaient d'instrumentaliser celle-ci ou l'Église à des fins partisanes, tout simplement. Prenons garde, ayons du discernement. Ce n'est pas parce que quelqu'un confesse soi-disant le nom de Dieu, lève une Bible. Il faut regarder le comportement de l'individu. Quand les gens sont grossiers, quand les gens mentent de façon... de façon tellement honteuse, n'est-ce pas, lorsqu'ils manifestent beaucoup d'arrogance et tout cela, on peut dire qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Faisons attention, frères et sœurs, de ne pas nous laisser séduire. Rappelons-nous ce que le Seigneur Jésus nous a dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, verset 6. En fait, je vous invite à y tourner rapidement, Matthieu chapitre 7, verset 6. Bon, le Seigneur prononce ces mots dans un contexte particulier, mais on peut en faire plusieurs applications. Ne donnez pas les choses, là c'est Matthieu chapitre 7, verset 6, ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, qu'ils ne se retournent et ne vous déchire. Ça parle ici de discernement. Bon, le contexte, c'est vraiment qu'il nous faut faire attention de ne pas juger impunément les gens, d'être très, très patient, mais à un moment donné, il faut faire très attention aussi. Alors, bien sûr, ici, les chiens et les pourceaux sont des animaux impurs pour les Juifs. Je rappelle que les chiens, ce ne sont pas nos petits animaux domestiques. Ce sont des animaux sales, ce sont des animaux dangereux, des prédateurs. Et l'idée est vraiment ici, est mise en opposition les choses saintes, les choses consacrées à Dieu. Ne donnez pas les choses consacrées à Dieu aux chiens. Ne jetez pas vos perles, les choses consacrées, mais présentées ici comme étant extrêmement précieuses. À l'époque, les perles, pour le moment dont il est question, sont des perles qui valaient une fortune. Alors, les vérités de l'Évangile, tout ce qui rapporte à la foi, ce sont des perles sans prix. Hein? Ce sont des choses saintes. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, car pour eux, il n'y a aucun discernement. C'est comme des petits pois, un morceau de viande, n'importe quoi, de la chair, n'importe quoi. Hein? Et l'idée, c'est vraiment qu'ils ne se retournent et ne vous déchirent. Mais l'idée, celle-ci. L'Écriture nous dit de sanctifier le nom de Christ, notre Seigneur. C'est toujours triste de voir quand l'Église se lève soi-disant pour dénoncer des injustices dans le monde, mais qu'après cela, lorsqu'on voit des politiciens se disant chrétiens ou quoi, du moins se disant faire cause commune avec l'Église du Christ ou l'Évangile, hein, commettre des choses répréhensibles et de voir l'Église se taire. C'est pas nouveau, ça s'est fait tout au long des siècles, mais ça démontre quand même un problème, un manque de discernement. L'éthique du royaume n'est pas l'éthique de ce monde. Et personnellement, je pense que nous devrions avoir une sainte jalousie pour le nom de Christ. Parce que lorsque des hommes le prennent en vain, ils font blasphémer le nom de Dieu. Mais l'Église du Seigneur doit sanctifier le nom de Dieu et le nom de Christ. Quoi qu'il en soit, faisons très attention. ne pas donner les choses saintes aux chiens, ni ne jeter nos perles aux pourceaux. Ayons du discernement. Il y a tellement un manque de discernement dans l'Église contemporaine. Il y a des raisons à cela. Pourquoi est-ce que l'Église se laisse tellement séduire par des discours pleins d'arrogance? Peut-être que l'Église est légèrement arrogante aussi. Et ce que nous voyons dans le chapitre 4, c'est que la nécessité pour quelqu'un, pour pouvoir vivre un tant soit peu devant Dieu, même pour un inconverti, pour pouvoir subsister un tant soit peu, c'est l'humiliation. Ce qui est vrai pour les gens dehors, ce qui est vrai pour les nations, les pays, etc. Et tout au long de l'histoire, Dieu humilie justement pour parfois faire abaisser justement le niveau de péché, le niveau d'arrogance. Mais cela est encore plus vrai pour tout ce qui porte le nom d'Église. L'humiliation et l'humilité sont une nécessité en soi. Nous avons besoin, frères et sœurs, comme Église, d'être humiliés. Parce que, laissés à nous-mêmes, nous avons constamment le même réflexe de nous élever. De nous élever, et en ce faisant, on s'élève au-dessus de Christ lui-même, le chef suprême de l'Église, et au-dessus de notre Dieu, sans même nous en rendre compte, tellement nous sommes aveuglés par notre orgueil. Faisons attention que la fin ne justifie pas les moyens. Pour protéger soi-disant les valeurs de l'Évangile d'une société, on ne peut pas, d'un autre côté, se lier avec ceux qui, en fait, ne vivent pas ces choses-là. Je rappelle, vous savez que lorsqu'Hitler a commencé à monter dans les sondages, a fini par prendre le pouvoir en Allemagne dans les années 40, qu'une grande partie de l'Église protestante l'a soutenu. Et voyant en lui un envoyé de Dieu, et voyant en lui l'homme providentiel. Pourquoi? En raison notamment d'une grande crainte du communisme, qui était très présent en Allemagne, mais dont Hitler a exagéré la menace, bien sûr, mais qui, on le savait très bien, en URSS, s'employait à détruire systématiquement la foi chrétienne. Alors on était pris, on avait peur justement de cette menace-là et Hitler s'en servait. Et puis il y avait aussi l'espèce de nostalgie de la part des protestants, entre autres, moins des catholiques, mais à savoir qu'avant la Première Guerre mondiale, que l'Église protestante était beaucoup plus liée avec le pouvoir. Mais à la suite de la défaite de la Première Guerre mondiale, il y a une plus grande séparation. Il y avait une nostalgie de l'ancienne gloire de l'Allemagne, même chez les chrétiens. Et alors, on a appuyé cet homme, malgré ses discours haineux, sans même se rendre compte que dans son plan, déjà, tout cela était préétabli. On prévoyait, après la guerre, la destruction même de l'Église. Faisons très attention, frères et sœurs. Bien sûr, une fois qu'il a pris le pouvoir, on a commencé à se distancer, mais il était trop tard. Il y a un péché là-dedans. Un manque de vision de la réalité du royaume, un manque de foi, des alliances qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu au lieu de se confier en Dieu et en Dieu seul, de demeurer séparé de ce monde. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que le thème central de notre chapitre est la conversion du monarque païen. Il y a autre chose dans ce chapitre-là qu'on n'a pas le temps de tout voir, mais je pense que ce matin, on a quand même réussi à voir des choses importantes, notamment le caractère indispensable de l'humiliation. Vous savez, ma prière depuis des années, c'est que Dieu nous humilie, que Dieu humilie son Église, tout ce qui porte le nom d'Église. Et ça s'en vient, on va le voir, parce que l'Église ne cesse de s'élever. Rappelons-nous l'Église de Laodicée. Qui se considérait riche comme n'ayant besoin de rien. Mais le Seigneur lui dit, tu es pauvre, aveugle et nu. L'humilité précède la gloire. Psaume 119, verset 71, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes prescriptions. Lamentation, chapitre 3, verset 3, lamentation de Jérémie, ce n'est pas volontiers qu'il humilie, qu'il afflige les fils de l'homme, mais parce que ça devient une nécessité. Et en fait, pour nous qui goûtons la véritable humiliation, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, déjà, la grâce de Dieu a agi en Nebuchadnezzar. Il aurait pu s'obstiner comme Pharaon. Il y a une grâce de Dieu qui s'est manifestée dans cet homme. Et Dieu a envoyé un message aux empires, qui, non seulement à l'empire babylonien, mais à ceux qui vont lui succéder, que justement, s'ils veulent moindrement avoir l'acceptation de Dieu, il va falloir qu'ils s'humilient, ce qu'ils n'ont pas fait, bien sûr. Et ils ont disparu les uns après l'autre, de même que les royaumes de ce monde sont tous appelés à disparaître en raison de leurs péchés et de leurs iniquités. En fait, c'est vrai pour chacun des individus qui peuplent ce monde. Ce matin, la question se pose, est-ce que je considère que mes dons, ma vie, ce que j'ai fait comme étant tout cela le fruit de ma propre volonté personnelle? Est-ce que je me glorifie de cela ou est-ce que je reconnais que tout cela vient de Dieu seul? Vous savez, Nebuchadnezzar aurait pu tout simplement ne pas naître, il aurait pu mourir jeune, il aurait pu naître infirme, il aurait pu être frappé d'une maladie. C'est Dieu qui avait décrété qu'il allait devenir le roi de Babylone. Il n'y a aucun orgueil en cela. Ce que je suis, même si je ne suis pas chrétien, je le dois à Dieu seul, hormis mon péché, bien sûr. La véritable repentance, c'est de revenir à Dieu, de reconnaître que tout vient de lui. Et qu'en est-il de ceux qui professent la foi chrétienne, mais qui en même temps retiennent quelques mérites personnels dans leur cœur? Cela, bien sûr, est incompatible avec l'Évangile. L'Évangile nous amène à reconnaître que nous sommes l'œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin, que nous sommes sauvés uniquement par la grâce qui est en Jésus-Christ. Et en terminant, quel que soit ce qui s'est vraiment opéré dans le cœur de cet homme, certainement qu'il y avait là un message très très fort même pour les Juifs, qui à l'époque de Daniel refusaient aussi de se repentir en majorité. Daniel est un exemple extraordinaire de fidélité, parce que lui et ses amis, malgré le fait que le peuple même à Jérusalem, dans la terre, continuait à se rebeller, ceux-ci acceptaient le plan de Dieu et discernaient la volonté de Dieu à leur égard. Mais ce changement de cœur, de pensée de la part du roi, cette confession publique à l'ensemble de son royaume, de la suprématie du Dieu d'Israël, aurait dû amener les Juifs eux-mêmes à la repentance, à reconnaître que Dieu les avait humiliés, mais que si, comme Nebuchadnezzar, ils avaient levé les yeux vers le ciel, que Dieu serait venu à leur secours. Je termine avec Matthieu chapitre 12, les versets 41 et 42. Jésus de mettre en garde les Juifs de sa génération. Matthieu chapitre 12, versets 41 et 42. Les hommes de Ninive, c'est à l'époque de Jonas. Jonas est envoyé vers la ville de Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, qui à ce moment-là était le grand royaume, qui va être renversé plus tard par le royaume de Babylone, alors qui était des grands ennemis d'Israël. Dieu a envoyé Jonas pour dire à Ninive, 40 jours et c'est terminé. Et aux grandes dames de Jonas, les Ninivites ont pris le sac et la cendre et se sont repentis devant Dieu. Je ne pense pas que c'était une véritable repentance, mais c'est une grande crainte. Peut-être qu'il y a eu des gens là-dedans quand même qui ont été touchés par la grâce de Dieu, mais en tant que tel, c'est juste un grand mouvement. Mais en comparaison des Juifs, c'est extraordinaire. Parce que pendant ce temps-là, Dieu envoyait ses prophètes. Il frappait son peuple aussi, mais personne ne bougeait. Et les prophètes leur disaient, le jugement s'en vient, mais personne ne bougeait. Mais ici, les Ninivites ont réagi, même le roi. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Il y a ici plus que Jonas, la personne de Jésus, plus grande lumière. La reine du Midi, ça c'est à l'époque de Salomon, se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici ici, il y a plus que Salomon. Une mise en garde. Vous savez, lorsqu'on devient tellement habitué à la vérité, il y a un danger de s'endurcir. Rien n'est plus en danger de s'endurcir dans le monde que ce qui porte le nom d'Église. Et de blasphémer le nom de Dieu en son propre nom. Que Dieu nous garde de cela, frères et sœurs. Que Dieu nous garde dans une grande humilité. Et remercions Dieu s'il nous émonde. Remercions Dieu s'il permet l'adversité, les difficultés, afin de nous garder dans ses voies, justement. Dieu ne le fait pas par méchanceté, mais par besoin, comme un bon père, comme un bon berger, en vue de se glorifier en nous et en vue de nous élever au temps favorable. Et vous savez, le temps le plus favorable, ce sera le retour de Christ. Quand l'Église cachée en lui va paraître et qu'elle va régner sur son trône, assise sur son trône, qu'elle va régner sur l'ensemble de l'univers. Mais d'ici là, prenons garde à l'orgueil. L'humilité précède la gloire. Amen. Notre très saint Père, nous voulons encore une fois te rendre gloire pour ta parole inspirée, infaillible, pour sa lumière, sa véracité, sa droiture. Elle est comme une épée à deux tranchants. Seigneur, qui pénètre nos âmes et nos esprits au plus profond de nous-mêmes et qui nous aide à faire le partage en ce qui vient de toi et ce qui vient de l'homme déchu. Nous te prions que cette parole, Seigneur, puisse faire son œuvre. Séparer notre Dieu, le mauvais du bon en nous. Que cette parole puisse renouveler nos intelligences. Que cette parole puisse nous fortifier dans nos âmes, afin que nous puissions continuer dans tes voies, quel que soit le prix à payer pour cela. Notre Dieu, ce matin, nous voulons certainement te remercier pour les moments difficiles que l'on peut passer. Parce que nous savons que dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Et que tu nous travailles. Nous te remercions pour les moments d'humiliation nécessaires, notre Dieu. Parce que c'est la preuve que nous t'appartenons. Et nous voulons courber les chines devant toi ce matin. Parce que nous sommes toujours en danger, notre Dieu, de lever la tête à nouveau, non pas vers toi, mais dans le sens de contempler nos œuvres. De lever la tête de façon orgueilleuse, comme si notre destinée nous appartenait. Et de perdre de vue, Seigneur, les réalités de ta parole. Alors que nous voyons notre monde, Seigneur, s'effondrer, alors que les signes, Seigneur, avant-coureurs d'un désastre extraordinaire se manifestent de plus en plus, donne-nous, Seigneur, de ne pas nier la réalité, mais plutôt de nous préparer, parce que ta parole nous dit de nous préparer. Non pas que nous avons un calendrier parfait, mais Seigneur, nous savons qu'il y a, nous aurons des tribulations dans ce monde. Ta parole nous dit, il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des pestes, des fléaux, des tremblements de terre. Jusqu'à bien des égards, notre Dieu, nous avons été épargnés, mais nous voyons, Seigneur, autour de nous, les signes de ta colère qui se manifestent. Sachant qu'à travers cette colère-là, notre Dieu, que par cette manifestation, tu peux aussi amener de nombreuses âmes à toi. Mais nous voulons aussi considérer, Seigneur, qu'il ne suffit pas que les hommes, Seigneur, soient humiliés, qu'il ne suffit pas qu'ils passent par la souffrance pour se convertir, car ta parole nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, que plus les hommes ont souffert, plus ils ont blasphémé ton nom. Mais dans ta grâce, tu t'en sers. Et nous te prions, Seigneur, pour ton peuple, non pas ceux qui portent le nom d'Église, mais la véritable Église, ceux qui t'appartiennent, afin que tu nous donnes, à la fournaise présente, Seigneur, de courber nos têtes devant toi, de courber nos âmes et nos cœurs, et de nous en remettre à toi, humblement, afin que nous recevions la grâce, l'intelligence, le discernement pour ne pas nous laisser séduire, ne pas nous laisser emporter, mais de demeurer ferme dans la vérité. Car Seigneur, c'est par notre foi que le ciel nous sera ouvert, grandement. Cette foi, Seigneur, nous te prions de la préserver dans nos cœurs, de nous donner la grâce de la préserver nous-mêmes par les moyens que tu nous donnes. Seigneur, donne-nous de croître dans la maturité, de ne pas nous contenter de demeurer à l'âge de l'enfant spirituel, emporté à tout vent de doctrine. Seigneur, ballotté par nos émotions, Seigneur, par les nouveautés, mais donne-nous de nous enraciner en Christ et surtout de nous enraciner dans l'amour de Christ. Seigneur, afin que nos yeux soient fixés sur lui, sur toi, donne-nous de vouloir sanctifier ton nom. Seigneur, nous te demandons pardon, car nous ne le sanctifions pas toujours. Bien au contraire, nous avons encore des conceptions profanes de ton être, de ta personne, de ton œuvre. Donne-nous de sanctifier ton nom, de sanctifier le nom de Christ, d'être jaloux de ton nom et du nom de Christ, et de le propager comme il se doit, sachant qu'en définitive, c'est ton décret qui va s'accomplir. Mais cela est pour nous Seigneur, une assurance extraordinaire. Que lorsque ton Fils va paraître des cieux, il ne manquera aucun de ceux pour lesquels il a donné sa vie. Ton plan parfait se sera accompli. Et Seigneur, tu te seras servi même de ceux qui refusent de croire pour l'accomplissement de ton dessein éternel. En ce jour, notre Dieu, nous te bénirons, nous te louerons. Après des moments, Seigneur, de tristesse, puisqu'il le faut, nous dit l'apôtre Pierre, nous savons que tout cela va déboucher, Seigneur, sur des moments de joie éternelle. Car nous aurons triomphé par Christ, par la foi que tu nous as donnée. Nous aurons remporté la victoire, notre Dieu. Nous ne nous serons pas laissés séduire. Nous aurons porté du fruit comme il se doit. Alors nous goûterons le repos éternel. Après les combats, les travaux, les douleurs, notre Dieu, notre joie sera sans fin. Et rien ne pourra nous la ravir. Que ton nom soit glorifié. Notre Dieu, nous te prions encore une fois ce matin pour nos frères et nos sœurs qui peuvent vivre des moments plus difficiles, dont la foi peut défaillir. Je te prie de manière particulière pour ma mère aussi, ses problèmes de santé, ses douleurs dans son corps, notre Dieu, qui affectent son âme. Nous te prions de les fortifier puissamment. Nous te prions que ta parole puisse faire son œuvre dans leur cœur. Nous te prions afin que tu les soutiennes. Nous te prions, Seigneur, afin que, Seigneur, ils puissent ne pas écouter la voix de l'ennemi, du découragement, mais se tourner vers toi. Levez les yeux vers toi, sachant que ta grâce est toute puissante pour remporter la victoire dans les difficultés présentes. Seigneur, vois nos frères, nos sœurs même qui peuvent avoir tombé, Seigneur, qui peuvent chuter, notre Dieu. Mais parce qu'ils t'appartiennent, nous savons que tu vas les garder. Nous te prions, Seigneur, afin qu'ils aient la grâce, Seigneur, de venir à toi humblement. Chercher le secours dont ils ont besoin, qu'ils viennent au trône de la grâce, Seigneur, afin d'être secourus, qu'ils puissent se relever et continuer la route, notre Père. Et nous te bénissons. Et pour nous-mêmes, notre Dieu, garde-nous de l'orgueil. Garde-nous de la présomption. Car celui qui croit être debout, Seigneur, qu'il prenne garde de tomber. Car nous sommes en nous-mêmes incapables d'aucun bien, d'aucune persévérance. Tout est en toi et par toi. Donne-nous de demeurer près de toi, notre Dieu. Donne-nous de demeurer près de toi, dans ta parole. Dans la prière, fortifie-nous, notre Père, et nous te bénissons pour ta grâce éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.